Bien, la deuxième partie sur cette problématique de l'équilibre et l'équilibration aquatique, c'est il n'y aura pas d'intervention, mais il n'y aura que des applications. La logique que je vais utiliser, c'est la différenciation des comportements entre des non-experts et des experts dans quatre situations dans lesquelles l'équilibration joue un rôle extrêmement important et autour de la logique du mouvement de la tête dans ces différentes tâches, les quatre tâches que je présente ici, le plongeon, le départ en dos, la nage alternée et le virage culbute. Et donc à partir de ces problématiques, les diapositives datent, vous voyez, il y a très longtemps. Tout est filmé en vidéo, mais à l'époque, ce n'était pas de la vidéo, justement, c'était du Super 8. Je n'ai pas retrouvé les films, donc j'ai réutilisé certaines diapos. Par contre, les photos sont ici, quand elles ne sont pas nommées, c'est qu'elles sont personnelles, sont soit d'époque un petit peu plus récente. Alors, une nageuse débutante qui cherche à plonger, c'est ici des comportements marqués, eh bien, on va regarder deux entités, le placement de la tête et l'extension des jambes. Eh bien, pour plonger, effectivement, il faut créer une impulsion, donc propulser avec les jambes, et placer la tête dans des conditions intéressantes. Ici, je veux dire, jusque-là, tout va bien. Au fur et à mesure de l'extension des jambes, qui sont tout à fait intéressantes, eh bien, on va voir que le réflexe de redressement, dont on a parlé déjà tout à l'heure, eh bien, va se réaliser de sorte que cette nageuse n'a pas une extension des jambes complète et en même temps a ce réflexe de redressement tout à fait normal lorsqu'on n'a pas reçu d'apprentissage. Et ce manque d'extension des jambes et ce réflexe de redressement va amener évidemment ce que tout le monde appelle un plat, c'est-à-dire cette image est tout à fait caractéristique de la problématique tout simplement du déséquilibre et de la capacité de rééquilibrer son corps. Sauf que si un intervenant dit à cette nageuse, tes jambes ne sont pas assez en extension, il faut pousser plus, et qu'elle le fait, mais qu'elle maintient ce mécanisme de redressement, eh bien, la conséquence va être un plat encore plus fort, parce que plus loin, et donc avec plus de force. Donc, le résultat va être évidemment une punition encore plus importante, simplement parce qu'elle a réalisé ou amélioré la poussée des jambes, mais qu'elle n'a pas améliorer tout simplement ce réflexe de redressement. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le nageur expert, non seulement il a une poussée complète des membres inférieurs, mais il a aussi une absence du réflexe de redressement, c'est-à-dire la tête est en flexion et non pas en extension. Or, le mécanisme de redressement de la tête est tout à fait normal et réflexe. De sorte que le jour de verglas, on peut avoir 45 fractures du poignet. Pourquoi? Mais parce que on a glissé, le redressement de la tête est réflexe, le fait tout simplement de tomber et de mettre les mains en avant pour protéger la tête est tout à fait réflexe et ce n'est pas anormal d'avoir des fractures du poignet le jour de verglas, simplement parce que l'homme est assujetti à des forces et à des systèmes réflexes. Donc ce réflexe de redressement de la tête est tout à fait normal, mais il faut le combattre pour pouvoir réaliser certaines actions. C'est particulièrement vrai en gymnastique, mais aussi en natation. Alors ici, on a affaire à une deuxième non-experte qui accepte de basculer la tête, et on va voir que malgré l'absence de poussée, eh bien, il n'y aura pas de problèmes de plat, même si ce n'est pas très efficace pour faire un départ de compétition, là on est tout simplement dans une entrée dans l'eau. Vous voyez que le fait tout simplement d'avoir des jambes qui se libèrent un petit peu une fois que la tête est dans l'eau, c'est assez habituel. Eh bien, il n'y a pas de plat, simplement on le voit ici, parce que la tête a accepté de vaincre ce réflexe de redressement par cette bascule. Et l'entrée dans l'eau, du coup, est tout à fait acceptable. Alors, c'est des vieilles diapos d'une étudiante, je ne sais pas quel âge elle peut avoir aujourd'hui, mais qui est extrêmement intéressante. Je n'ai jamais, malheureusement, retrouvé ce type de comportement. Pourquoi ? Parce que là, on est dans une position de départ. Là, on a plus affaire à un départ de compétition. Donc, un départ dans lequel on va regarder la flexion-extension des jambes et la position de la tête. Ici, on peut considérer, à la différence de la nageuse qu'on a vue tout à l'heure en photo, qu'on a une extension de la tête qui n'est pas catastrophique si, on le verra tout à l'heure en dynamique avec justement Julien Sicot, lors d'un plongeon réalisé en réel, que la tête dans cette position peut très bien être relevée. À la condition, évidemment, qu'au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'eau, eh bien, cette tête va basculer et non pas se redresser. Et là, chez cette élève-là, cette étudiante-là, on a une très grande capacité d'extension des jambes, donc la poussée est extraordinairement bien réalisée. L'alignement corporel est tout à fait cohérent. L'entrée dans l'eau, à mon avis, jusque-là, va toujours très bien, pour le dire d'une manière très simple, jusque-là, tout va bien. Mais maintenant que les mains sont dans l'eau, regardez ce qui va se passer. Jusque-là, tout va encore bien. Eh bien, on va avoir un réflexe de redressement extrêmement important, avec redressement non seulement de la tête, mais des mains, des membres supérieurs. Puis, progressivement, un non-alignement. Et cette photo est assez extraordinaire, parce que alors qu'elle était dans une extension des membres inférieurs extrêmement positive, eh bien là, il y a un déséquilibre extraordinaire qui est quasiment le même qu'un plat, alors qu'il n'y a pas eu de plat, simplement lié à ce réflexe de redressement de la tête. Alors, dans le cadre, tout simplement, d'un départ normal, eh bien, la tête, elle va être en flexion, elle peut éventuellement se redresser pour être, pourquoi pas, dans une position quasi naturelle pour un être humain, c'est-à-dire à l'horizontale, à la condition que progressivement il y ait une phase de redressement et qu'à l'entrée dans l'eau, on soit bien en flexion et non plus en extension. De sorte que si on regarde la tête et l'orientation du regard, on pourrait avoir des phases dans lesquelles il y a une hyperflexion au moment de la partie sur le plot, un relevé, voire une extension jusqu'à l'horizontalité dans la partie d'élévation aérienne, et à la condition qu'à l'entrée dans l'eau, on ait de nouveau cette flexion. On va le retrouver ici dans les mécanismes que j'ai décrits avec une extension, puis une flexion. Flexion, extension, flexion. Alors, ces photos qu'on peut retrouver donc de la première jusqu'à la dernière montrent dans cette logique-là que la position de tête ici est relativement peu en flexion, peut augmenter cette flexion, puis ici une petite extension, là aussi on peut augmenter cette extension à la condition qu'on soit bien dans une flexion à l'entrée dans, ce qu'on va voir maintenant en vidéo. Alors, là, ce sont des images de la fédération, Alain Bernard, on peut regarder. On est dans la configuration des plots de compétition. Et on est là dans le cadre d'une évaluation réalisée par le service recherche de la fédération. Et donc, on va voir. La flexion n'est pas très marquée. Mais on voit bien qu'à l'entrée dans l'eau, il y a effectivement une flexion extrêmement importante. Une extension. Une flexion extrêmement importante. Donc on peut le regarder de nouveau avec quelques arrêts sur image. Et donc, ici, on est dans une configuration, je dirais tout simplement habituelle, avec plusieurs essais, avec des consignes différentes. C'est évidemment cette fois-ci pas moi qui les donne, mais on peut regarder cette phase au moment du départ. Et on voit bien qu'au moment de la réorganisation corporelle, il y a bien une extension ici décalée du fait d'un départ pied décalé. Tous les départs ne sont pas pied décalés. Et pour entrer dans l'eau, dans des conditions tout à fait marquées. Alors si on regarde attentivement, ça c'est repris à partir de cette planche-là, dans la phase aérienne, eh bien on va voir que justement la position de la tête va se modifier, mais qu'à l'entrée dans l'eau, on est bien dans cette problématique-là qu'on va retrouver de nouveau chez Julien Sicot dans le cas d'un départ. Au ralenti, on peut même faire des arrêts sur image. Donc, phase de flexion, puis phase d'extension, une poussée importante. Là, on est dans une problématique où la tête est en extension, presque comme on l'a vu chez l'étudiante tout à l'heure, à la différence près, évidemment, qu'au fur et à mesure, la tête va être dans une hyperflexion jusqu'à atteindre tout simplement l'équilibre général et la tête est positionnée entre les bras. Alors, c'est aussi vrai dans le départ en dos. La tête joue un rôle fondamental dans le départ en dos. Là aussi, des vieilles images dans lesquelles, jusque-là, tout va bien. On est sur un départ en dos d'une non-experte. L'extension de la tête est relativement intéressante associée à la poussée des jambes. Cette extension est toujours intéressante dans la problématique de la poussée, sauf que, voyez, entre ces deux images, celle-ci et celle-ci, on a un réflexe ici qui n'est pas le réflexe de redressement, qui est un réflexe tout simplement de maintien de la tête dans une position confortable au lieu d'amener l'hyperextension. De sorte que, premièrement, la poussée a été réalisée correctement, mais d'une part, le positionnement des membres supérieurs, mais surtout le positionnement de la tête amène tout simplement la logique de freiner l'entrée dans l'eau et d'empêcher radicalement une pénétration favorable du corps dans le milieu aquatique qui amène indirectement à un plat, un peu comme celui qu'on a vu tout à l'heure, alors qu'on est dans une problématique de départ en dos. Chez l'expert, eh bien, on va voir que la tête, ici, va être en flexion, puis, pendant la phase de poussée, va être en hyperextension, et à l'entrée dans l'eau, la tête sera en hyperextension jusqu'à revenir dans une position plus confortable une fois la partie immergée. Ces photos, donc, je les ai inversées donc, par rapport à la réalité. Ces trois photos, donc, malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas la possibilité de faire les photos les unes derrière les autres. Donc, ces trois photos prises à des moments différents. Eh bien, on voit la flexion de ce nageur de niveau mondial, champion olympique, dans le cadre du meeting de Canet en Roussillon, qui était les sélections de l'équipe russe de l'époque. Eh bien, vous voyez, c'est Renaud Boucher, un nageur français international, eh bien, vous voyez que la position du corps ou la position des bras est relativement proche, sauf que l'extension est marquée ici, alors qu'elle ne l'est pas là. Et donc, cette compétence à tout simplement mettre la tête complètement en arrière. On est à l'époque où il y avait des maillots de bain, donc la technique était un petit peu différente, mais on est quand même sur cette photo qui, je trouve, moi, absolument fabuleuse, avec l'extension des jambes. Le corps est le plus possible hors de l'eau, mais à l'entrée des mains dans l'eau, la tête est en hyperextension. Et vous allez voir dans la photo suivante, alors là, on a trois cas de figure. On a le plat catastrophique. On a les nageurs qui acceptent de basculer la tête en arrière dans des conditions plus ou moins intéressantes. Et ça, c'est un nageur qui aujourd'hui entraîne Monaco et dont la fille est en équipe de France, qui s'appelle Michel Poux. Eh bien, on voit que c'est un nageur de 200, hein, rassurez-vous. Mais vous voyez qu'au moment de son départ, eh bien, il est encore, alors qu'il est nageur international, eh bien, il est encore dans un mécanisme, tout simplement, de flexion de tête, donc d'un réflexe qui n'a pas été modifié. La quatrième tâche que j'aborde avec vous dans la différenciation non-expert-expert est sur la nage alternée. La position de la tête. Alors, on a vu dans les deux cas précédents que ce qui était extrêmement important, c'était le mouvement de la tête et de combattre les réflexes, et en particulier d'extension ou de flexion. À l'inverse, pour pouvoir bien nager dans les nages alternées crawlées d'eau, il faut fixer la tête. Alors évidemment, quand on respire, on ne peut pas la fixer, mais quand on ne respire pas, eh bien, il faut fixer la tête. Eh bien, cette modification du placement de la tête est la caractéristique du non-expert. Là aussi, je pourrais prendre plein de vidéos, mais j'ai préféré m'appuyer sur des diapositives dans lesquelles on voit que ce nageur non-expert, quand il nage le crawl, eh bien, sa tête va se déplacer en même temps que ses mouvements. Et vous imaginez, évidemment, les conséquences pour sa locomotion dans ce cadre-là. Et on voit bien ici que le mouvement de la tête est tout à fait aberrant par rapport à la problématique, que ce soit dans la phase de retour, que ce soit dans la phase de propulsion, dans la problématique de maintien, tout simplement, de l'équilibration propulsive du nageur. Alors, l'avantage du dos, c'est que les voies respiratoires étant émergées, on n'a pas besoin de sortir la tête de l'eau pour respirer, ce qui veut dire que si je reprends des images réelles qui ont été montées avec un trait horizontal vu de face, eh bien, on va s'apercevoir que la tête est systématiquement dans l'axe, ce qui prouve bien que la tête ne bouge pas, alors même que le dos a un roulis extrêmement important pour dégager l'épaule dans la phase de retour et pour engager l'épaule dans la phase de propulsion. Donc ce roulis extrêmement important, encore plus important qu'en crawl, eh bien, est marqué par un roulis exagéré et malgré ça, une position stable de la tête. Ici, on va le voir en vidéo sur des images filmées d'un nageur international, Simon Dufour pour ne pas le citer, eh bien, on voit, même s'il y a un tout petit mouvement de la tête, que le roulis des épaules est extrêmement important pour propulser, avec une propulsion très différente du crawl, dans la phase aquatique, et pour dégager l'épaule pour faire le retour. Et donc, ce roulis des épaules est très marqué, et pour autant, on maintient la stabilité de la tête. Un des exercices qu'on propose, c'est de poser, alors si je veux être méchant, je vais poser le téléphone portable du nageur sur sa tête pendant qu'il nage le dos, parce que comme ça, il fera très attention de ne pas bouger la tête. Alors en crawl, on peut le retrouver dans des conditions similaires. Bon, la vidéo ne tourne pas, c'est pas très grave. Ah si, voilà, donc au ralenti, évidemment, on a un mouvement de tête qui va être marqué au moment de la respiration, mais en dehors des phases respiratoires, eh bien, on a également une stabilité de la tête qui compense tout simplement les mouvements d'épaule extrêmement importants dans le cadre tout simplement de l'exagération de ce roulis des épaules. Quatrième et dernière tâche que je vais vous proposer, c'est le virage culbute. Alors, virage culbute, eh bien, il a la particularité d'utiliser un peu les différentes compétences qu'on vient de voir sur l'équilibration et les mécanismes d'équilibration. Et si on regarde ici, dans le cadre du virage culbute, eh bien, on va voir que les compétences sont relativement multiples. étant entendu que le mouvement de la tête va être dans une position de nage normale, puis une extension pour déclencher le processus de rotation. Ce processus de rotation est amplifié pendant la bascule du corps, mais à partir du moment où on va se retrouver dans la position où les pieds vont toucher le mur, eh bien, il faut bloquer cette rotation pour éviter de trop tourner, mais aussi créer une vrille pour pouvoir pousser d'une manière latérale et non pas sur le dos. Donc, pour apprendre la culbute, on va faire une rotation puis pousser sur le dos. Et pour faire une culbute réelle, eh bien, il faut faire une vrille. Or, l'enclenchement de la rotation se fait par la tête. Le blocage de la rotation se fait par la tête. Le maintien de la vrille se fait par la tête. Le blocage de la vrille se fait par la tête. Et ensuite, on revient à la position normale dans la nage. Et donc, la tête est un élément fondamental de l'organisation et de la stabilité du corps dans le cadre de l'équilibration d'une tâche extrêmement complexe qui est la tâche de la culbute. Alors voilà, par exemple, une étudiante qui cherche à culbuter. Elle a reçu des consignes. Elle sait ce que c'est que la culbute, bien évidemment. Et donc, elle va se propulser. Le problème, c'est que quand elle va arriver vers le mur, au lieu d'augmenter sa vitesse de nage en provoquant une allure et une propulsion marquée, eh bien, on voit qu'il y a un freinage. En d'autres termes, j'arrive vers le mur, je freine, ce qui est évidemment l'inverse de ce qu'il faut réaliser. Mais comme elle reçoit des consignes, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va quand même chercher à faire une rotation, mais vous voyez, encore une fois, qu'on a un réflexe de redressement, c'est-à-dire qu'au lieu d'accepter de basculer la tête en flexion, eh bien, on a ce fameux réflexe de redressement qui met la tête en extension et qui, du coup, empêche la rotation. Sauf qu'en empêchant la rotation, eh bien, elle cherche quand même à tourner. Et donc, au lieu de réaliser une rotation, il va y avoir une translation. À la rigueur, il valait mieux faire, en termes de performance, un virage touché à la main, mais là, on est évidemment dans quelqu'un qui cherche à faire la culbute et qui, évidemment, n'y arrive pas. Et on voit encore une fois que dans ce cas-là, la tête se réorganise en extension et à la rigueur, à partir de là, tout va bien de nouveau puisque la tête est revenue dans une position normale. Donc, elle croit avoir réalisé une culbute, sauf que on voit bien dans ces images ici que pour réaliser une culbute, il faut, un, propulser, puis se maintenir en équilibre, puis fléchir, puis accepter la flexion et la rotation, puis bloquer la rotation, puis créer une demi-vrille, accepter de vriller, bloquer la demi-vrille, puis pousser et enfin revenir à la position horizontale. Donc vous voyez bien le rôle fondamental du segment céphalique et de l'organisation du mouvement de la tête dans la réalisation de cette tâche complexe qui est la tâche de la culbute. Dans ces vieilles images, on a là un cas assez intéressant d'une nageuse dont on voit bien que la tête est encore en partie hors de l'eau. Dans l'image suivante, la tête est dans l'eau. Et dans l'image suivante, on voit qu'il n'y a aucune activité équilibratrice des bras, puisque les bras sont hors de l'eau, ce qui est une erreur. Mais on voit bien que c'est bien la tête à elle seule, et non pas les mécanismes des membres supérieurs, qui ont organisé cette rotation. Alors dans le cas d'une culbute réalisée ici, par Julien Sicot, voilà. Donc là, le film n'est pas de très bonne qualité. En plus, apparemment, le programme informatique ne permet pas... Voilà, si on a quand même une petite partie qui est visible dans le cadre de cette réalisation, tout simplement, de la culbute. Et on va la revoir chez Alain Bernard dans une première partie aérienne. où vous avez bien vu qu'on ne voit pas grand-chose. C'est pour ça que je vais utiliser la partie sous-marine qui est les mêmes vues, dans les mêmes conditions, dans le cadre de ce virage culbut. Donc ça veut dire clairement que ici, chez Alain Bernard, on est bien sur de la nage, puis de la création de la vitesse par le dernier appui, puis de la création de la rotation. D'ailleurs, on pourrait avoir un tout petit temps mort avant. On voit qu'il y a encore une petite extension là, alors qu'on pourrait être encore un tout petit peu plus en flexion. Puis le blocage, tout simplement, la rotation pour se retrouver dans cette position-là avec une légère vrille. Puis une position de rétablissement de l'équilibre. Comme on l'a vu tout à l'heure, la tête est le segment qui va, comme le chat qui tombe, le segment qui va réorganiser l'ensemble de l'équilibre corporel et de l'équilibration corporelle. Et enfin, dans le cadre de la reprise de nage, on est bien dans une position normale de la tête. En conclusion, on peut considérer que le comportement spontané du débutant est souvent associé à un équilibre non maîtrisé. Et souvent, d'ailleurs, il va faire appel à des mécanismes réflexes qui sont non adaptés. Autant l'être humain est adapté pour marcher, pour courir, pour sauter, alors qu'il n'est pas adapté pour faire un salto arrière ou un salto avant. Il n'est pas adapté pour faire du saut à la perche. Il n'est pas adapté pour faire de la natation et de la nage, et en particulier dans des tâches complexes, comme dans le cadre du virage culbut. L'apprentissage d'une motricité adaptée nécessite le plus souvent la maîtrise de l'équilibre préalable, et dans les différentes situations d'apprentissage que je propose dans d'autres vidéos, eh bien, je vais énormément m'appuyer sur l'équilibre statique afin de construire un équilibre statique, puis un équilibre dynamique, puis une équilibration et une désorganisation. Or, la flottabilité, la posture sont des enjeux extrêmement importants de l'équilibre statique, et l'équilibre statique est un enjeu extrêmement important de l'équilibration. Et je vous remercie de votre attention.